Radio Kapi. Oh, Kapi.
L'actualité nous maintient calés à Bouchouchou, à Nyamukubi, où l'ombre du désastre reste plus que visible au vu des défis encore à surmonter. C'est tout d'abord l'accès dans les contrées dévastées par les inondations, la disponibilité de l'aide, sa distribution et tous les autres risques liés aux maladies, car il y a encore des corps ensevelis. Nous en parlons en ouverture de ce journal avec notre permanent dans le Sud Kivu, Emmanuel Elameji. Nous ferons avec vous un tour à Beni pour voir comment les activités journalières sont quasi à l'arrêt à cause d'un appel à une ville morte pour ainsi fustiger l'insécurité qui met à mal le quotidien des habitants. Firmin Vonde Mambu, procureur général près la Cour de cassation, est l'invité de ce journal. Son entretien porte sur l'évaluation qu'il fait de la marche des institutions judiciaires de la province du Kassai oriental. C'est après une mission d'inspection qu'il vient d'achever en Mbujimayi. Merci pour votre attachement à Radio Okapi. Fidèles auditeurs, bienvenue et bonjour à toutes et à tous. À la présentation de ce journal, Billy Yvan Lutumba. Sud Kivu, la situation des sinistrés de la catastrophe de Calais reste très préoccupante. En dehors de plus de 450 corps repêchés des décombres, les survivants font face à plusieurs défis pour leur survie. Nous en parlons avec Emmanuel Elameji Wakabedi depuis Bukavu. Bonjour Emmanuel, quelle est la situation actuellement dans le territoire de Calais?
Oui, bonjour Billy. Disons que la situation reste très très préoccupante hein, à Bouchouchou et à Nyamukubi. Le décompte indique plus de 450 corps repêchés de décombres et déjà enterrés jusque le week-end dernier. Le temps reste maintenant à la recherche des autres corps hein, de décombres. Aussi la prise en charge pour la survie de quelques sinistrés qui ont perdu leurs biens et ont perdu même les leurs. Il y a des blessés de cette catastrophe qui suivent encore des soins, des enfants qui sont restés orphelins, qui ont échappé alors que leurs parents ont disparu.
Quels sont aujourd'hui les grands défis qui se présentent pour toutes ces personnes et même pour le milieu des Calais?
Le principal défi pour Calais aujourd'hui, c'est la route nationale RN2 qui traverse le territoire de Calais entre Bukavu et Goma sur un tronçon totalement délabré. Et dans cette catastrophe, hein, les collines de Bouchouchou ont déversé le motte de terre sur la chaussée entre Bouchouchou et Nyamugubi sur environ 3 km, empêchant aujourd'hui tout passage, même par le piéton. Alors que si cette route est ouverte à la circulation, les personnes peuvent faire mouvement vers d'autres localités, hein, se trouver même un refuge dans des familles d'accueil. Mais aussi, si cette route est rétablie, ça peut permettre le mouvement des humanitaires hein, qui peuvent secourir les sinistrés. Autre défi, c'est la délocalisation des sinistrés pour ne pas les exposer à de tels genres de catastrophes dans l'avenir. Pendant qu'ils rôdent tout autour du lieu des drames, c'est le défi sanitaire aussi qui se pose en même temps et il y a risque de l'apparition de maladies de masse si l'on y prend garde. Enfin, autre défi, c'est la distribution de l'aide aux sinistrés qui commence à poser problème. Le nombre de personnes continue à croître chaque jour, ce qui met à mal le comité local de gestion et de la catastrophe hein, pour savoir qui est le véritable bénéficiaire de l'aide.
Et pour terminer, Emmanuel, malgré tous ces problèmes, y a-t-il quand même présence de certains humanitaires sur place?
Oui, Billy, la communauté onusienne, la communauté humanitaire hein, est vraiment présente à Bouchouchou et à Nyamukubi en ce moment, hein, c'est depuis une dizaine de jours maintenant. Des organisations comme OCHA, HCR, UNICEF, OMS et bien d'autres organisations encore travaillent jour et nuit là-bas pour venir au secours des survivants et d'autres questions encore de santé, même aussi pour leur trouver des abris jusque-là provisoires. Voilà.
Merci bien Emmanuel de suivre pour nous cette situation à Calais depuis le sud qui vous retrouvez. Retour ici à Kinshasa, plusieurs personnes disent souffrir actuellement de la grippe, nez qui coule ou narines bouchées carrément, tout maux de tête, fièvre et autres courbatures. Pour Dr Muriel Longokolo, infectiologue et interniste aux cliniques universitaires de Kinshasa, cela peut s'agir de la simple grippe saisonnière, mais elle souligne qu'il y a aussi plusieurs autres maladies qui peuvent présenter un syndrome grippal, d'autant plus qu'il y a aussi une légère hausse des cas de Covid-19 ces derniers temps. Le mieux est de se rendre dans un centre de santé. Toutefois, il s'agit d'une simple grippe saisonnière. Elle donne quelques conseils pour les personnes déjà malades et aussi pour la prévenir pour celles qui sont encore saines. Dr Muriel Lokolongo est au téléphone de Chris Bandundo.
Pour les personnes malades, le conseil, c'est des mesures barrières, un repos. Vous avez mal à la tête, vous toussez, vous faites de la fièvre. On peut donner le traitement symptomatique pour booster un peu l'immunité. On peut donner des vitamines comme la vitamine C. On la trouve dans plusieurs aliments, dans les fruits surtout. Les citrons, les oranges, les ananas. Prendre des boissons chaudes, éviter la poussière. Et pour les personnes qui ne sont pas encore malades, comme bientôt nous entrons dans la saison sèche où on note souvent des maladies des voies respiratoires à cause de la poussière, il faut humidifier nos maisons. Ouais, nos vieilles mamans, avant même de balayer la parcelle, quand il y a beaucoup de poussière, ils versent un peu de l'eau pour humidifier un peu l'atmosphère. Ce sont des gestes qu'on peut faire. Il faut bien aérer nos maisons, surtout si vous avez des enfants qui ont de l'asthme. Ce sont vraiment des moments propices où les enfants peuvent faire des crises. Éviter les boissons froides, surtout les enfants, les laver avec de l'eau tiède. Prendre aussi des aliments riches en vitamine C, hein, comme les fruits.
Nous parlons à présent de la situation à Béniville dans le Nord Kivu. 5 jours de ville morte viennent d'être lancés à partir de ce lundi pour dire non à l'insécurité grandissante dans la ville. Selon la coordination de la société civile Force Vive et les mouvements citoyens de la place responsables du mot d'ordre, les 5 jours sans activité visent à interpeller les autorités en charge de la sécurité afin qu'ils prennent leurs responsabilités. Marc Maroufimbo pour des précisions.
Toutes les activités socio-économiques ont cessé en ville de Béni. Maisons de commerce, boutiques, marchés, écoles, exceptionnellement pour cette fois-ci, les officines pharmaceutiques ainsi que les alimentations hautes ont aussi fermé leurs portes. Depuis les premières heures de ce lundi matin, les rues et avenues des quartiers de la commune Moulekera ont été barricadées par les jeunes manifestants. Les éléments des forces de l'ordre sont intervenus pour dégager ces barricades et permettre à la circulation de reprendre. Des coups de feu ont été entendus lors de cette opération. Si dans une partie de la ville, un calme est observé avec circulation timide de quelques engins roulants, la partie ouest par contre constitue un foyer de tension où les forces de l'ordre font face aux manifestants. Au petit marché comme au grand marché Kiloqua, les étalages sont quasiment vides. Quelques vendeuses de légumineuses sont toutefois visibles avec la peur d'être surprises par les manifestants qui sillonnent la ville. Pour rappel, ces 5 jours sans activité sont décrétés par la société civile pour dire non à l'insécurité urbaine. Il ne passe pas une seule nuit sans que des maisons d'habitation soient cambriolées par des bandits armés. Au moins 850 cas ont été répertoriés par cette structure citoyenne depuis le début de cette année. C'est ce qu'elle qualifie d'irresponsable de la part des autorités chargées de protéger les civils et leurs biens. Beni, Marc Maroufimbo, Radio Okapi.
Nous restons dans la région. Le Forum de paix de Beni, une organisation de défense des droits de l'homme, se dit inquiète de la dégradation de la situation sécuritaire dans la ville de Beni. Depuis quelques semaines, cette entité fait face à une insécurité caractérisée par des vols à main armée, les meurtres des civils. Dans une lettre adressée au maire de Beni, le Forum de paix recommande notamment la tenue des réunions hebdomadaires du comité urbain de sécurité en y associant la société civile. Martial Papi Moukeba pour les détails.
Dans sa lettre au maire de Beni, le Forum de paix dit avoir documenté entre janvier et avril 2023 au moins 153 cas de vols à main armée dans les 4 communes de la ville. En cause, selon cette organisation de défense des droits de l'homme, l'absence d'un cadre d'échange entre les autorités locales et la population, mais aussi la non-tenue régulière des réunions du comité urbain de sécurité. Pour faire face à l'insécurité dans la ville de Beni, Forum de paix recommande au maire de Beni de réunir dans l'urgence les organisateurs des journées ville morte pour décider ensemble des stratégies pour sécuriser la ville, de réactiver les réunions hebdomadaires du comité urbain de sécurité en y associant la société civile, d'intégrer les chefs d'avenue et de cellules dans l'organisation des patrouilles de la police et d'instaurer des cadres permanents d'échange avec les jeunes dans différents quartiers de Beni. À la population, les forums de paix recommandent la vigilance et la collaboration avec les autorités locales. Beni, Martial Papi Moukeba, Radio Okapi.
L'actualité nous amène dans la province du Congo central où les activités socio-économiques ont été paralysées cet avant-midi dans la ville de Boma. Et pour cause, l'appel à la journée ville morte lancé par le cadre des organisations de la société civile, décrété pour les journées du lundi 15 au mardi 16. À travers cette activité, cette structure citoyenne entend réclamer la relance effective des activités au port de Boma et l'application de l'arrêté du 23 janvier dernier relatif à l'obligation de contrôle technique des véhicules au seul port de Boma. Nana Plurich Mambo.
Le riz de la ville portuaire de Boma n'ont pas connu ce lundi leur influence d'habitude. Des élèves n'ont pas fait les déplacements de leurs écoles. Même si cette journée a été consacrée au début des interrogations pour les élèves du primaire. La chef de la sous-division provinciale de l'éducation de Boma qui l'affirme, espère que la situation sera décantée dès demain mardi. Martine Boya.
Les quelques élèves qu'on avait trouvés sont rentrés et même les enseignants. C'est le début des interrogations, maman. Vraiment, c'est le souhait que les enfants arrivent à l'école demain.
Pour la coordination de la société civile, ce mouvement des villes mortes vise à réclamer la relance des activités au port de Boma, considéré comme poumon économique de cette entité. Selon son coordonnateur, toutes les dispositions allant dans le sens de relancer les activités portuaires que les autorités tant nationales que provinciales prennent souffrent d'application. Apollinaire Sokangimbi.
La ville morte à Boma est totale. Nous continuons à dire à toutes les autorités de la démocratie du Congo, nous avons besoin de la justice et d'un traitement égal entre toutes les villes de la province du Congo central. Le dossier du port a trop duré et nous en avons mal.
Hormis les écoles, plusieurs autres services, étatiques et para-étatiques, n'ont pas ouvert leurs portes ce lundi dans ces coins du pays. Parmi lesquels, les universités, les grands marchés et autres, en dépit du communiqué du maire, invitant la population à vaquer librement à ses occupations. Matadi, Nana Plus Riche Mambou, Radio Okapi.
Et à Guadolité, la population déplore la hausse progressive des prix sur le marché. Il s'agit des prix de plusieurs produits de première nécessité dont l'augmentation va du simple au double, voire plus. Le mouvement s'observe depuis plus d'une semaine. Il concerne tant les produits manufacturés que les produits vivriers. À l'origine, le mauvais état de la RN24, la route nationale, sur l'axe Businga-Wadolité, principale voie d'approvisionnement de la ville en produits manufacturés. Des précisions avec Paul Richard Malengela.
Plusieurs ménagères affirment que la vie devient de plus en plus intenable à Guadolité. La situation est consécutive à la hausse des prix des produits de première nécessité. Le cas du sac de farine de froment de 50 kg, il est passé de 150 000 à 250 000 francs congolais. Le sac de sucre passe de 130 000 à 175 000 francs congolais. Une bouteille de boisson gazeuse qui se vendait à 2 000 revient actuellement à 4 000 francs congolais. Les dépositaires et autres revendeurs justifient cette hausse par la facture élevée des transporteurs. Ceux-ci tiennent à compenser les multiples pannes et difficultés que connaissent leurs camions dues au délabrement très avancé de la route Businga-Guadolité. Au lieu de 24 heures, certains parcours se tronçonnent de 135 km pendant 4 voire 5 jours. En revanche, sur les marchés locaux, les acheteurs se bousculent aussi pour les produits vivriers devenus rares. Un morceau de poisson qui coûtait 5 000 s'achète désormais à 10 voire 12 000 francs congolais, nous a expliqué une ménagère jointe au téléphone. Le sac de cossette de manioc qui coûtait 15 000 francs congolais se négocie aujourd'hui à 35 000. Pour cause, signale notre source, dans des sites de production, les paysans ont abandonné leurs champs. Ils se ruent notamment sur les activités de fonds social qui leur procurent immédiatement plus d'argent que la vente de leurs produits. Bondaka, Paul Chamalingué, la Radio Okapi.
Et dans la province de la Lomé, suppression momentanée par le maire de la ville de Monédit ou de la taxe des vélos transportant des marchandises ainsi que de la taxe d'étalage des produits maraîchers vendus sur différents marchés de la ville de Monédit. Cette décision a été annoncée par Gérard Chibanda dans une paroisse catholique de Monédit au cours d'une messe de ce dimanche. Cependant, chaque pédaleur paye à l'entrée de la ville 5000 francs pour son vélo, tandis que les femmes vendeuses des légumes payent 200 francs congolais d'étalage par jour. Gérard Chibanda, maire de la ville de Monédit, donne ici des motivations.
Il s'agit premièrement de toutes les mamans qui vendent les légumes sur toute la ville de Monédit. Deuxièmement, aux pédaleurs ou motocyclistes, appelés communément moustrongueurs, qui amènent les vivres de première nécessité sur la ville, tels que les maïs, les maniocs, les arachides, les haricots, les poissons. Ils viennent du territoire de Kanyama, de Lwilu, du territoire de Kamiji, voire même de certains villages du Lualaba et du Kasaï central. Par jour ici chez nous, nous pouvons compter plus ou moins 800 à 1000 vélos qui entrent sur la ville, qui amènent les vivres. Ces jeunes gens vous font des kilomètres et des kilomètres, des longues distances à vélo. Ils souffrent beaucoup. Il y a ceux qui viennent au-delà des 500 km à vélo, imaginez-vous. Et l'objectif, c'est de chercher à stabiliser, tant soit peu, les prix sur les marchés. Les taxes sont à présenter au sortir de la ville, après avoir vendu les articles de consommation qu'ils nous amènent. Et attention, ces décisions n'excluent pas les contrôles physiques pour connaître qui entre sur la ville. Ça, c'est très nécessaire pour la sécurisation de la ville.
Nous allons avant de passer à la page internationale. Dans la province du Maniema, l'association des jeunes amitiés plus a organisé ce dimanche 14 mai à Kindu une journée de réflexion dédiée aux femmes. Organisée dans le cadre de promouvoir et valoriser la femme, cette rencontre avait comme thème général engagement et action des femmes aux instances décisionnelles. Florence Kizalunga a pris part à cette journée de réflexion. Voici son reportage.
Deux sous-thèmes dont femmes partenaires dans le changement au Congo et les femmes face aux enjeux politiques ont été développés au cours de cette journée. Les coordonnateurs de cette association, Héritier Kamukunda, donnent l'essence de son activité.
L'essence de cette activité, nous voulons en ce que nous puissions valoriser au moins la femme dans notre province et dans notre pays en général. Ce que nous avons constaté, premièrement d'abord, il y a la marginalisation des femmes dans les institutions, dans des aspects aussi. Ça nous a poussé aussi à bien réfléchir et pouvoir voir comment est-ce qu'on peut remonter au moins les niveaux et voir comment est-ce qu'on peut encadrer aussi les jeunes filles et femmes de notre province et de notre pays.
Les participants trouvent bénéfique ce genre de rencontre.
Cette journée de réflexion m'a plus révoltée dans le sens que ça a plus réveillé le profond sommeil qui s'était dans moi. Je me disais comment je peux arriver aussi à avoir un poste dans la communauté. Je dois aussi faire quelque chose pour que je sois sentie, que j'ai une place dans la communauté.
Étant qu'homme, je vais vraiment me décourager de l'esprit de l'égoïsme pour laisser aussi aux femmes ou bien aux filles d'accéder dans des instances décisionnelles pour permettre qu'il y ait la parité.
L'association Amitié Plus promet d'intensifier cette activité. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Des chrétiens soudanais ont été blessés dimanche par des tirs sur une église en banlieue de Khartoum, ont annoncé les camps des deux généraux qui se disputent le pouvoir, se renvoyant la responsabilité de cette attaque. Dans le droit fil de ces violations de toutes les lois et coutumes internationales, la milice rebelle de soutien rapide a tiré sur les fidèles chrétiens dans l'église du quartier de Massalama à Omdurman, a annoncé dans un communiqué l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan en référence aux paramilitaires des forces de soutien rapide FSR. La vice-présidente de Colombie, l'afro-colombienne Francia Marquez, est en tournée dans plusieurs pays d'Afrique sur fond de polémiques et de vives critiques de l'opposition conservatrice. Aujourd'hui s'ouvre un chapitre fondamental des relations internationales de la Colombie pour la coopération sud-sud, la justice raciale et climatique et les réparations historiques, a annoncé sur son compte Twitter la vice-présidente en amont de son voyage en Afrique du Sud, au Kenya et en Éthiopie. Forte personnalité très ancrée à gauche, Francia Marquez est devenue à 41 ans la première femme noire vice-présidente de Colombie avec l'élection de l'été 2022 de l'opposant de gauche Gustavo Petro, dont elle était la colistière.
L'invité.
Le procureur général près la Cour de cassation a clôturé ce lundi sa mission d'inspection au Kassai oriental. Firmin Mvonde Mambo est venu faire l'inspection du parquet général près la Cour d'appel du Kassai oriental. Sur place, il a visité la prison centrale de Mbujimayi où il a procédé à la libération des quelques détenus poursuivis pour des faits bénins. Firmin Mvonde Mambo, procureur général près la Cour de cassation, s'entretient avec Esther Dalafina.
Bonjour, monsieur Firmin Mvonde Mambo. Vous venez de clôturer votre mission en Mbujimayi au Kassai oriental. Quel a été le but de la mission?
Bonjour, madame. Je suis arrivé il y a 4 jours en mission de service. J'ai été précédé par 2 hauts magistrats qui ont procédé à un travail d'inspection réglementaire, donc de fond en comble du parquet général près la Cour d'appel de Mbujimayi. Inspecter un parquet général près la Cour d'appel, c'est dans nos attributions. Nous sommes le parquet général, l'unique parquet général près la Cour de cassation. Nous avons sous notre direction la surveillance de 27 parquets généraux près les cours d'appel. Ici, Mbujimayi sera le 3e parquet général à être inspecté dans mon mandat ici. L'inspection consiste à voir au sein de cet office du parquet et du ressort ce qu'il faut entendre par bonne administration de la justice par le parquet. Les messages sont venus, c'était pour, ou plutôt tous les dossiers qui sont au parquet général près la cour d'appel de Mbujimayi, passer en revue chaque dossier. Pourquoi il est encore en procédure, quelles orientations il faut donner pour qu'une solution soit rapidement trouvée, et s'il faut classer un dossier, on les classe, s'il faut que le prévenu qui est dans un dossier soit libéré, il est libéré, s'il faut que le dossier soit rapidement envoyé à fixation, il est. En fait, c'est pour voir si l'exercice de l'action publique, qui est notre partage, s'effectue normalement. Donc, le travail a été fait. Je crois qu'on m'a parlé de plus de 2500 dossiers que les deux commissaires ont abattu comme travail. Et j'estime qu'à ce niveau-là, vous avez une idée de l'inspection que le parquet général près de la Cour de cassation assure sur les parquets inférieurs. Je voudrais poursuivre en disant qu'au terme de l'inspection, j'ai eu à animer une journée porte ouverte où j'étais en présence des justiciables et qui m'ont exprimé leur doléance, leurs préoccupations. Et pour ceux qui étaient, nous y avons accordé la plus grande diligence dans le traitement des préoccupations qui s'exprimaient. Des solutions idoines, ponctuelles ont été trouvées. Nous avons eu à travailler hier dimanche pour le suivi de d'autres questions, d'autres procédures qui n'ont pas trouvé de solution science tenante.
Quelles sont vos impressions après avoir visité la prison centrale d'Mbujimayi?
La prison centrale d'Mbujimayi souffre de deux maux. Essentiellement, la surpopulation carcérale, qui est le mal de toutes les prisons de la République. Cela se comprend facilement. L'État possède des prisons construites il y a des dizaines d'années. La population a augmenté, la criminalité et naturellement, Mbujimayi. Sur 150 prévenus prévus pour cette prison, il y en a, au jour de ma visite, il y en a été dénombré 440, soit les triples du nombre prévu. Nous avons procédé à la libération des prévenus dont les faits nous semblaient soit bénins. Le deuxième couac, c'est qu'à la prison de Mbujimayi, les enfants sont mêlés aux prévenus majeurs. Ça, absolument, il faut que nous y veillions le plus rapidement possible. Mais au-delà de ça, j'étais content de savoir que les prévenus ne meurent plus à la prison de Mbujimayi. Moi, je me suis passé ici pendant 4 ans que j'ai été. Il y a eu vraiment des morts qui se succédaient. Aujourd'hui, pratiquement une année toute entière, on n'a même pas de nombre d'un seul prévenu qui soit décédé à la prison. Ça, c'est bien. J'ai eu à rencontrer les prisonniers, à échanger avec eux. Ils mangent. Que l'État assume ses prérogatives régaliennes. Ils ne sont pas des rejetés de la société. Et naturellement aussi, la prison est très petite. Vous savez, quand on envoie quelqu'un en prison, il faut qu'on puisse prévoir des mécanismes de resocialisation. La resocialisation, c'est dans les mesures d'amendement qui sont, par exemple, les champs dans les travaux champêtres, les ateliers de couture, de maçonnerie, de menuiserie. Et ça, l'espace est tellement exigu pour la prison de Mbujimayi qu'il ne sera pas possible qu'on puisse continuer à cet endroit-là. Voilà pourquoi je plaide pour sa délocalisation à un endroit où on aurait beaucoup plus d'espace pour que non seulement que la population carcérale qu'on vienne dans les cellules, mais qu'aussi qu'on prévoit des travaux, des resocialisations pour que pendant les séjours carcérales, on puisse arriver à amender les prisonniers.
Au cours de la journée porte ouverte, les justiciables ont parlé et vous avez vous-même vu autant de dossiers qui traînent sur les tables de magistrats. Comment comptez-vous réparer l'appareil judiciaire?
Madame, je l'ai dit hier, la justice, on ne peut pas dire qu'elle se porte bien dans le pays. Je ne voudrais pas parler des conditions, des contraintes sociales des magistrats pour justifier quoi que ce soit. Mais je voudrais surtout dire que les justiciables sont tenus aussi de nous aider, nous qui pilotons, nous qui dirigeons les magistrats. L'erreur est humaine, tant qu'on ne veut pas la réparer, on est diabolique, mais je crois que nous sommes là justement pour pousser les magistrats à faire du bon travail. Pour ainsi dire, il y a des dossiers qui traînent, on a boosté pour qu'ils soient traités. Et j'ai dit à tous ces magistrats que je donne une trêve, j'ai pas voulu sanctionner qui que ce soit, parce que avec le téléphone vert que j'ai mis à disposition des justiciables, nous apprenons des faits qui ne sont pas agréables, la sanction va tomber. Donc j'ai balancé aujourd'hui la carotte parce que j'ai donné des conseils, mais la prochaine fois c'est les bâtons.
Merci beaucoup, monsieur Fermé.
Madame, je vous remercie et voilà, au plaisir.